France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés. Heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de décryptage de l'actualité. Tous les matins jusqu'à 9h30, on revient sur deux thèmes, deux débats qui font l'actualité sur France Info Radio et France Info TV, canal 16 de la TNT. Bonjour Renaud Dévy.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons nos informés Stéphanie Despierres, journaliste politique à LCP. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Et Gilles Bornstein, vous présentez les 4 V sur France 2, tous les matins jusqu'au jeudi à 8h12. Bonjour Gilles.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
Et on commence tout de suite avec notre premier débat. Renaud, François Bayrou va-t-il reculer, céder notamment sur les deux jours
fériés ? Ouvrir en tout cas la discussion, en particulier avec les socialistes. On est désormais à 5 jours de ce fameux vote de confiance qui semble perdu d'avance pour le Premier ministre. Après avoir reçu le RN puis la droite hier, il doit d'ailleurs recevoir les socialistes demain, le Premier ministre. Hier, lors d'un déjeuner à l'Élysée, le chef de l'État Emmanuel Macron l'a invité à parler, à travailler davantage et de façon urgente avec les socialistes. François Bayrou peut-il revoir sa copie ? Ce matin, chez nos confrères de BFM, à propos de la suppression des deux jours fériés, il se dit prêt, dit-il, à examiner toute alternative, mais sans plus de précision. Que faire de cette mesure qui a suscité une colère largement partagée et qui est rejetée par l'ensemble des forces politiques? Voici ce qu'en disait ce matin Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, il y a quelques minutes sur ce plateau.
Si vous retrouvez ce que j'ai dit cette mesure ne peut être compréhensible et acceptée par les Français que si elle s'accompagne d'un gain, soit par de l'intéressement, soit par de la participation, soit par du salaire. Sinon, elle n'est pas acceptable.
Et dans le même temps, Amélie de Montchalin soulignait que pour discuter avec d'autres forces politiques, il faut arrêter, dit-elle, de se critiquer, de s'insulter les uns les autres, comme un petit coup de griffe implicite au Premier ministre, en tout cas dans la façon dont il a pu parler jusqu'à présent des socialistes, et notamment de leurs propositions, de leur contre-budget alternatif. Alors, est-il encore temps pour le chef du gouvernement de reculer, de céder, de discuter, notamment sur la question des jours fériés ou sur la taxation des plus hauts revenus, ou est-ce que, visiblement, les fils sont rompus et cette négociation est, en quelque sorte, a échoué avant même d'avoir véritablement commencé ?
En tout cas, c'est le brouillard, moi je trouve. Gilles Bornstein, est-ce que François Bayrou a l'air prêt à reculer ?
Moi, je crois qu'il peut reculer tout ce qu'il veut. De toute façon, ça ne servira plus à rien, parce que comme c'est un homme altruiste, François Bayrou, là, il travaille pour son successeur. Les uns et les autres ont suffisamment dit qu'ils allaient censurer. Irrévocable, a dit Olivier Faure. On sent que Marine Le Pen est déterminée à censurer. Donc maintenant, il peut faire tous les gestes qu'il veut. C'est trop tard. Simplement, en posant maintenant des gestes, en disant on est prêt à faire ceci, on est prêt à faire cela, Amélie de Montchalin, elle a certainement pas renoncé à être ministre du budget d'un futur gouvernement. Ils entament déjà la négociation qu'il faudra de toute façon avoir pour un budget, parce qu'il y aura un Premier ministre un jour, ça c'est certain, et ce Premier ministre devra trouver un budget pour la France. Donc pour François Bayrou, quels que soient les reculs, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où il veut aller lui-même, mais à mon avis, quels que soient les reculs, c'est trop tard, parce qu'encore une fois, je pense que quoi qu'il dise, il sera censuré, et il va être censuré très durement, avec une très large majorité. En revanche, on sent se dessiner déjà, je trouve, les contours de la future négociation budgétaire avec un futur Premier ministre et un futur gouvernement, mais toujours la même Assemblée, évidemment. Et là, on sent que ça bouge. Amélie de Montchalin a eu du mal à mettre du contenu aux concessions qu'elle est prête à faire. Hier, quand elle dit qu'il faut arrêter que la solidarité nationale s'exerce que sur le travail, ça paraît abstrait. Après, dans le monde d'hier, elle dit oui, il faut davantage taxer le capital. Est-ce que le gouvernement est prêt à ça ? Là, ce qu'on a appelé la flat tax, par exemple, le fait que tous les revenus du capital sont imposés à 30%. Bon, il n'est pas question de la supprimer, mais on peut l'augmenter. Ils peuvent décider qu'au lieu d'être taxés à 30, ils sont taxés à 31, 32, 33, 35%. Ça, ce sont des gestes qui peuvent commencer. Je ne sais pas s'ils y sont prêts. Mais je trouve que voilà, se dessinent maintenant les contours de la future négociation budgétaire.
Stéphanie Despierres, vous pensez que le Premier ministre peut encore convaincre les socialistes en faisant quoi ?
Ça paraît très compliqué. Moi, hier, j'étais dans la cour de Matignon. On a vu défiler Marine Le Pen. Les socialistes vont être reçus demain. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. On ne voit pas pourquoi ça avancerait là dans les 3-4 derniers jours, alors que ça n'a pas avancé cet été, qu'il n'y a pas eu de discussion très concrète. Les socialistes ont essayé de pousser un peu les choses en présentant un contre-budget avec des mesures très précises, avec des mesures très symboliques aussi, comme cette taxe Zucman à laquelle ils tiennent. François Bayrou a donné
un impôt minimum de 2%
voilà,
sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros.
Les 1% les plus riches. François Bayrou a fermé la porte, même si là, on a entendu la ministre du budget dire qu'il y avait d'autres possibilités peut-être de taxer le capital. Mais pour l'instant, ça n'avance pas. Et comme le disait Gilles, le mal est fait. Les socialistes ont dit on ne votera pas la confiance, on ne voit pas très bien comment les choses peuvent se retourner d'ici lundi.
Gilles Bernstein.
Il y a quelque chose que moi j'avais sous-estimé, c'est à quel point François Bayrou maintenant est impopulaire. Un socialiste récemment me disait, mais dans ma circonscription, il est encore plus détesté qu'Emmanuel Macron. Et ça, c'est vrai qu'il a, on a vu là, il a une cote de popularité très faible. Là, Emmanuel Macron a repris 5 points dans un sondage, François Bayrou n'en a repris que 2. Moi, on me dit que sur le terrain, il est considéré comme arrogant, pas fiable, et impopulaire comme il est, aucun, quels que soient les gestes qu'il fait, aucun parlementaire n'a intérêt à aller sauver un Premier ministre dont tout le monde dans sa circonscription lui dit qu'il le déteste.
Stéphanie Despierres.
En fait, on a l'impression que François Bayrou essaie de jouer l'opinion. Là, dans son interview ce matin, il dit « Je fais ce vote de confiance pour ouvrir les yeux des Français. C'est original, c'est inédit, mais je l'assume. » Il est comme un électrochoc. Sauf que il oublie un peu que c'est les parlementaires qui vont voter. Et en effet, certains lui avaient laissé un peu du temps, que ce soit du côté des députés ou du côté des Français. Mais on sent une exaspération qui monte. Et voilà, le problème, c'est que ce ne sont pas les Français qui tranchent. Si on veut que les Français tranchent, il faut des nouvelles élections. Là, ce sont les députés qui vont trancher lundi.
Alors, pourquoi Emmanuel Macron a reçu les chefs de parti du socle commun hier, Renaud Dely, pour leur demander de tendre la main aux socialistes s'il n'y a rien à faire, si c'est trop tard et s'il n'y a plus rien à proposer?
Parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, en fait, Agathe, le chef de l'État. C'est-à-dire que le fait d'être sur le banc de touche, de regarder les autres s'agiter ou de regarder son Premier ministre ne pas s'agiter, d'ailleurs, ne rien faire, ça ne lui ressemble pas en termes de tempérament. C'est de surcroît. C'est pas forcément extrêmement habile à très court terme, c'est-à-dire que plus évidemment il va apparaître et sembler un petit peu à la manœuvre, comme c'est le cas avec ce déjeuner hier avec les chefs du bloc central, plus il pâtira lui aussi du vote de défiance de lundi, hein, plus il sera associé à cet échec. Mais en même temps, on voit bien aussi qu'il peut pas s'empêcher déjà de préparer, d'anticiper la suite.
En fait, donc, il prépare l'après. Il mise plus sur Bayrou.
Oui, non, bien sûr. Macron. Mais comme François Bayrou veut partir, c'est manifeste.
Ah oui,
c'est très clair. On voit très clairement, je rejoins Gilles Bernstein, sur l'impopularité record de François Bayrou. Là où je suis un peu plus hésitant, c'est que je pense que le ressentiment de l'opinion à l'endroit d'Emmanuel Macron est massif lui aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie remontée de la popularité d'Emmanuel Macron dans l'opinion.
Mais Emmanuel Macron, il y croit toujours.
De surcroît, on va le voir dans les jours qui viennent, avec ce fameux mouvement Bloquons tout, avec un certain nombre de ressentiments. Et on l'entend de plus en plus d'ailleurs, avec, y compris les sondages le montrent, des Français qui veulent soit une dissolution, soit éventuellement même une démission du chef de l'État. Mais François Bayrou, ça fait un moment, et c'est manifeste, on l'a vu dimanche soir lors de son entretien aux chaînes d'info, on l'a encore entendu ce matin, il ne fait aucun pas clair, aucune concession claire, contrairement d'ailleurs à ce qu'avait été la méthode de Michel Barnier lors de la négociation du budget l'an dernier. Ça lui avait pas réussi au bout, puis à la fin, puisque finalement Marine Le Pen avait appuyé sur le bouton. Mais il y avait des concessions qui étaient claires, assumées, revendiquées par Michel Barnier. Quand François Bayrou dit oui, les jours fériés, on peut en discuter, bon, il dit pas bon, c'est une bêtise, je le range et on va trouver autre chose. Pourquoi? Parce que je rejoins ce que disait Stéphanie Despierres. C'est vrai qu'il semble jouer l'opinion, même s'il a l'opinion contre lui. Il se pose déjà en recours. En fait, il se réfère souvent à Pierre Mendès France, hein, on le sait, c'est sa marotte. Il aspire à jouer le rôle de Pierre Mendès France, comme si lui-même jouissait de sa popularité à l'époque, au moment où il a quitté le pouvoir, et comme un éternel recours, sauf qu'il oublie que Pierre Mendès France n'est jamais revenu au pouvoir.
Voilà.
Et on voit mal comment François Bayrou serait en position de force pour être candidat en 2027. Donc très clairement, la page, elle est tournée, ce qui explique le traitement qu'il a à l'endroit des socialistes. Et Emmanuel Macron, pour revenir à votre question, il prépare déjà la suite, avec le risque, c'est d'ailleurs ce que souligne, on en parlera tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, dans l'interview qu'il donne au Figaro ce matin, qu'on assiste à nouveau à la même mécanique, c'est-à-dire un chef de l'État hésitant, qui prend des jours et des jours, qui veut s'occuper lui-même des contours de la majorité, et que ça prenne un certain temps, et ce qui affaiblirait encore plus la position d'Emmanuel Macron.
Ce qui affaiblirait encore plus le pays. Les socialistes, aujourd'hui, c'est la planche de salut d'Emmanuel Macron, Gilles Bernstein. Il n'y a pas d'avenir pour ces deux dernières années qui nous restent s'il n'y a pas d'accord avec le PS?
Il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas au moins un accord de non-censure. Alors, il y en a eu un, on a vu ce qu'il a donné, ça n'a pas duré très longtemps. C'est certain que un gouvernement, quel qu'il soit, doit bénéficier de l'indulgence des socialistes ou du Rassemblement national pour durer. Alors là, les socialistes ont l'air d'avoir envie de gouverner. Il semblerait, il m'a été confirmé que lors du déjeuner d'hier, effectivement, le président de la République n'a pas exclu de se tourner vers les socialistes, auquel cas les Républicains le quitteraient immédiatement. Je recevais
c'est au ça le problème, parce que Bruno Retailleau a dit si c'est avec le PS, c'est sans nous.
Exactement. Il quittera Osman Nasrou, que je recevais au 4V, le numéro 2 des Républicains, disait si les socialistes le dirigent, Bruno Retailleau ne fera pas partie de ce gouvernement, et j'imagine les autres Républicains non plus. De toute façon, faites l'équation, que ce soit un Premier ministre du Bloc central ou un Premier ministre socialiste, d'une certaine manière, l'équation est la même. Il doit se retourner vers les partenaires qui sont prêts à discuter pour trouver un accord de non-censure. Soit il y a un homme ou une femme du Bloc central qui trouve un nouvel accord de non-censure avec le PS, mais il faudra le payer en termes budgétaires. Soit c'est l'inverse, soit c'est les socialistes qui devront en rabattre sur le programme qu'ils nous ont dévoilé à Blois sur leur budget pour trouver un accord de non-censure avec les LR. Il sera compliqué pour les Républicains de censurer un gouvernement, de s'allier avec LFI et le Rassemblement national et d'être les seuls partis de gouvernement à censurer un gouvernement.
Et à se mettre en dehors.
Et à se mettre en dehors du champ des partis de gouvernement.
Dans ce contexte, Stéphanie Despierres, est-ce que Éric Lombard, ministre de l'économie, classé à gauche, membre du gouvernement et en même temps proche d'Olivier Faure, est-ce qu'il pourrait être l'homme du consensus à Matignon pour faire le lien entre les macronistes et le PS ?
Alors, tout est ouvert. On sait qu'Éric Lombard, depuis qu'il a été nommé, discute beaucoup avec les socialistes. Symboliquement, c'est quand même si le gouvernement tombe, c'est quand même le ministre du budget d'un gouvernement qui tombe parce qu'il y a un désaccord sur le budget. Ça peut-être être compliqué. Un peu de sang neuf ne ferait peut-être pas de mal. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, on le disait, les négociations avec les socialistes n'avancent pas. Et François Bayrou, hier à Matignon, les Républicains étaient à peu près persuadés que ce matin, François Bayrou annoncerait qu'il renonçait à la suppression des jours fériés. Ça aurait été symbolique. Un geste très clair en direction de toutes les forces politiques, mais surtout des socialistes, et il ne l'a pas fait.
Il se dit prêt seulement à examiner des alternatives, Renaud Dellier. Comme vous disiez, c'est flou.
C'est flou, et quand c'est flou, voilà. C'est ce que disait la grand-mère de Martine Aubry.
On connaît
c'est
la réponse.
À loup. Voilà.
Dans un instant, la charge de Nicolas Sarkozy contre François Bayrou. Mais pourquoi est-il aussi méchant? C'est tout de suite après le Fil Info de Maureen Suniard, 9h19.
Il tente de sauver sa place alors que le vote de confiance se rapproche, ce sera lundi, jetant la main à toutes les forces politiques, assure ce matin François Bayrou. Le chef du gouvernement se dit prêt à examiner toute solution alternative à la suppression de deux jours fériés. Il accuse par ailleurs le patron des socialistes, Olivier Faure, de vouloir abattre le gouvernement pour devenir Premier ministre. Plus de 500 drones russes lancés sur l'Ukraine la nuit dernière selon Kiev, une attaque alors que le président américain s'est dit déçu par son homologue russe concernant le conflit. Le président ukrainien élu en France, il rencontre le chef d'État français à l'Élysée. Le marché de l'immobilier en France reprend quelques couleurs après deux années de chute. Petite embellie au niveau des transactions, mais moins forte que prévu. Les ventes ont augmenté en début d'année, puis elles ont été moins nombreuses au printemps à cause d'une augmentation des taux d'intérêt et à cause de l'instabilité politique. Prudence si vous vous trouvez sur le littoral en Gironde. Le préfet alerte sur un risque maximal de baïne. Ces courants qui emportent les baigneurs vers le large, risque encore présent demain.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambray.
Informés continue avec Stéphanie Despierres, journaliste à LCP, Gilles Bornstein, présentateur des 4V sur France 2. Renaud Dely, évidemment, on passe à notre deuxième débat. Renaud, Bayrou, Macron, pourquoi Nicolas Sarkozy tire-t-il à balles réelles ?
Il n'est pas content, mais alors pas content du tout, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Une interview au lance-flammes ce matin dans les colonnes du Figaro, avec ce qu'on appelle au bowling un strike. Emmanuel Macron, vous le disiez, François Bayrou aussi, mais aussi d'ailleurs par ricochet Bruno Retailleau. Tout le monde y passe et il accable Emmanuel Macron d'abord, qu'il considère comme étant toujours en train de chercher à gagner du temps, un inconséquent qui cherche à gagner du temps, qui sombre dans la complexité, dit Nicolas Sarkozy, en cherchant toujours à faire rentrer un pied gauche dans une chaussure droite. Le Premier ministre François Bayrou, lui, il choisit le suicide politique, faute de sang-froid et de rationalité avec ce vote de confiance. Et puis au passage, quand même s'il couvre de compliments Bruno Retailleau, il appelle la droite à ne pas voter la confiance à François Bayrou, ce que, en revanche, envisage de faire Bruno Retailleau. Et puis, il appelle surtout Nicolas Sarkozy à une dissolution de l'Assemblée nationale, seule issue possible, selon lui, seule clarification souhaitable. Une position, d'ailleurs, la dissolution qui n'est pas soutenue par l'ensemble de son camp. Par exemple, Gérard Larcher, le président du Sénat, hier soir, aux 20h de France 2.
Dissolution, pourquoi faire ? clarification. Je ne crois pas qu'on aura une clarification sur une nouvelle dissolution. Et d'ailleurs, les analyses et les sondages nous démontrent que on aura encore une nouvelle complexification. Voilà pourquoi je ne suis pas favorable, a priori, à une dissolution.
Alors, est-ce que ce serait une nouvelle complexification, cette dissolution ? Pas si sûr, contrairement à ce que vient de dire Gérard Larcher dans l'extrait que nous avons diffusé. D'ailleurs, c'est ce que ne semble pas penser Nicolas Sarkozy, qui est très méchant, vous le disiez, avec Emmanuel Macron et François Bayrou dans cette interview au Figaro, mais très gentil, en revanche, avec Marine Le Pen. Il souhaite qu'elle puisse être candidate à la présidentielle. Il ne voit pas pourquoi le RN, d'ailleurs, est un parti, il considère le RN comme un parti républicain parfaitement comme les autres, et qui pourrait tout à fait, d'ailleurs, remporter les élections législatives. Donc, est-ce que cette dissolution n'est pas finalement la clarification inévitable qu'évoque Nicolas Sarkozy, et pourquoi donc cette prise de position de l'ancien chef de l'État ?
Pourquoi Nicolas Sarkozy règle-t-il ses comptes de façon aussi violente, Stéphanie Despierres, aujourd'hui ?
Alors déjà, avec François Bayrou, ils ont une relation exécrable depuis des décennies. Donc là, il en
il
profite.
Se déteste,
il
on
se
peut
déteste
le dire.
Et il se déteste depuis les Européennes de 99. Il se déteste surtout depuis que François Bayrou avait appelé à voter Hollande en 2012. Ça a fini de terminer l'histoire, le divorce entre les deux. Donc là, il en profite pour régler ses comptes-là. Et puis, on sait que l'ancien président de la République a toujours un œil sur ce qui se passe, que lui aussi, il a peut-être ce syndrome. Emmanuel Macron de vouloir participer aux choses. Il voit aussi que son parti, les Républicains, reprend un peu des couleurs, même s'il s'est mis en retrait. Sa voix est toujours très écoutée chez les Républicains. Et là, quand il dit, par exemple, qu'il faudrait s'abstenir lundi lors du vote de confiance, c'est parce que, justement, il voit plus loin et il estime qu'il faudra une dissolution et que les législatives sont inévitables. Et donc, si les Républicains ne s'abstiennent pas dans la confiance à François Bayrou, eh bien, ils le payeront après.
Jusqu'à présent, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, c'était tout de même une bienveillance mutuelle. Gilles Bornstein, pourquoi aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron est déjà, on va pas dire à terre, mais extrêmement fragilisé, Nicolas Sarkozy l'accable comme ça ? C'est une rupture ?
Bah, en tout cas, on sent effectivement, il n'y avait pas vraiment une bromance entre les deux, mais enfin, il l'a toujours respecté. On sentait qu'il y avait Nicolas Sarkozy faisait une différence parmi ses successeurs entre François Hollande, qu'il méprise, en gros, qu'il ne trouve pas au niveau, et Emmanuel Macron, qu'il a toujours trouvé, lui, au niveau de la fonction. Oui, il règle ses comptes, alors avec François Bayrou, parce qu'il le déteste, au point d'ailleurs de proférer une contre-vérité, parce qu'il dit qu'il a soutenu Ségolène Royal en 2007.
Non, ma connaissance, il a voté pour Ségolène Royal.
Alors qu'il avait.
Il a voté, mais enfin, il n'avait pas choix.
Alors dans l'interview, il dit pas qu'il a soutenu. Il dit qu'il a voté François, qu'il a voté Ségolène Royal.
Dont acte.
Là où il profère une contre-vérité, effectivement, il réécrit l'histoire, c'est qu'il dit que Marine Le Pen a appelé à voter pour François Hollande en 2012, ce qui est faux, puisque Marine Le Pen avait appelé à voter blanc à l'époque. Il explique que François Hollande a été élu grâce au soutien de Marine Le Pen.
En tout cas, bon, c'est un homme plein d'affect, Nicolas Sarkozy. Et quand il n'a jamais vraiment, je pense qu'il a toujours pas digéré de ne plus être président de la République. Quand il voit son successeur dans la difficulté, bah, il l'enfonce un peu. Et il souligne que, bah, ça se passe, il avait beau être un jeune président très moderne, Emmanuel Macron, bah, la vie est compliquée pour lui aussi. Et ça lui fait plaisir de le souligner. Et quant à la dissolution, alors là, effectivement, il a une certaine clairvoyance politique, Nicolas Sarkozy. Mais d'aller expliquer que la dissolution réglerait des situations, ça m'étonne. Sauf si, et j'ai noté comme Renaud ce qu'il dit sur le Rassemblement National, quand il dit puisque le Rassemblement National a le droit de se présenter à des élections, il a aussi le droit de les gagner. Il le dit. Dire qu'il a aussi le droit de gagner les élections, ça veut dire qu'il a le droit de gouverner la France. Et c'est vrai que c'est étonnant d'entendre l'ancien président de la République se mettre dans la situation où le Rassemblement National gagnerait des élections et donc serait appelé aux responsabilités. Alors il ne dit pas qu'il faut aller vers une union des droites et que c'est la solution. Mais enfin,
Il parle de plus en plus ouvertement du Rassemblement National après avoir reçu Jordan Bardella.
C'est ce qui me semble le plus intéressant et le plus nouveau dans cette interview. Il règle ses comptes avec François Bayrou depuis des décennies, vous le disiez. Avec Emmanuel Macron, en gros, depuis 3 ans, il reproche à Emmanuel Macron de faire l'inverse de ce qu'il lui conseille à chaque fois. En revanche, ce qui est plus nouveau, et ce qui va dans le droit fil du fait qu'il ait reçu, comme vous le rappeliez à l'instant, au début du mois de juillet, Jordan Bardella à son bureau de la rue de Miroménil, c'est l'adoubement, en quelque sorte, du Rassemblement National comme un parti parfaitement républicain, parfaitement comme les autres, qui a le droit de gagner les élections législatives, comme le disait Gilles Bernstein. Son souhait aussi que Marine Le Pen puisse se présenter à la présidentielle, comme si la décision des juges, hein, c'est ce qu'on comprend en lisant Nicolas Sarkozy, était une volonté de leur part de bâillonner Marine Le Pen et non pas de juger des faits qui, en tout cas, en première instance, ils ont considéré comme délictueux. Et ça, ce qui me semble très intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, s'il y a quelque chose qu'il connaît très bien, c'est la droite. C'est l'état d'esprit de la droite, j'allais dire du peuple de droite. Il voit les sondages, il connaît la droite, et il sent bien, d'une part, l'aspiration à la dissolution, qui monte quand même dans l'opinion, et puis il tourne la page du macronisme comme pour esquisser une nouvelle ère politique qui pourrait être celle, d'une façon ou d'une autre, d'un rapprochement entre droite et extrême droite. Droite et extrême droite sont aujourd'hui déjà jumelles sur les questions régaliennes, très clairement, sécurité, immigration, identité, islam. C'est assumé de part et d'autre, d'ailleurs. Il y a encore une différence sur les questions économiques et sociales, mais on voit bien qu'un rapprochement en cours peut arriver, notamment sous l'impulsion de Jordan Bardella, qui semble un peu enterrer la fameuse dimension sociale.
Il prépare un peu l'avenir, de toute façon, dans tous les cas, il y aura de bonnes relations avec le pouvoir en place.
C'est ce qui se passe partout en Europe, enfin dans beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui. Une sorte de mélanisation des esprits qu'on voit à l'œuvre en Italie et dans d'autres démocraties européennes, où la droite et l'extrême droite convergent d'une certaine façon. Ça peut prendre la forme d'une alliance en bonne et due forme, d'une coopération, d'un rapprochement, mais on a l'impression que Nicolas Sarkozy dessine en quelque sorte cet avenir-là.
Merci les informés, c'est passionnant. On va continuer d'en parler. Merci Stéphanie Despierres, journaliste politique à LCP. Merci Gilles Bernstein.
Merci,
les
4
V, lundi, jeudi, 8h12 sur France 2. Nous, Renaud, on se retrouve demain matin.
À demain, Agathe.
Et vous retrouverez les informés ce soir à 20h.